Je commence tout de suite par la question des frontières, du déplacement des frontières. Nous avons eu un échange rapide dimanche au téléphone et donc mon collègue médecin me disait, moi, le déplacement des frontières, ça ne me dit pas grand-chose. Voilà, alors je dis, bah, très bien, je vais m'occuper du déplacement des frontières et je vous laisse le handicap. Donc on s'est un peu réparti la chose de cette manière-là. Maintenant, sur la question du déplacement des frontières, évidemment, je vais en parler de manière métaphorique. Je ne vais pas faire un cours de géopolitique, n'est-ce pas? On ne va pas parler de problèmes de civilisation, de frontières ou que sais-je, entre nations, etc. Voilà. Alors, très rapidement, je pars de deux définitions extrêmement simple et très sobre, aussi bien des frontières que du handicap, sachant que sur la question du handicap, donc Thierry David reprendra en particulier l'origine de cette notion qui se trouve dans la langue anglaise, dans le monde d'ailleurs anglo-saxon, et qui est assez étonnante. Voilà, mais je vais pas en parler maintenant puisqu'il en parle, donc on va pas se répéter. Donc très simplement, à propos du handicap, on va parler de déficience physique ou mentale. Un point, c'est tout. J'en reste là. Mais après, je dirais, on va enrichir la question. Et à propos donc des frontières, eh bien très simplement, et ça vient à l'esprit de tout le monde. Donc les frontières, c'est ce qui limite un territoire, ce qui délimite donc une étendue. Et donc on va évidemment en parler de manière métaphorique. Mais d'ailleurs, c'est dans l'usage de la notion, puisque par exemple, on parle de repousser les frontières dans le domaine de la connaissance, etc. Donc l'usage métaphorique est tout à fait, je dirais, intégré à ce terme, hein, au terme des frontières. Voilà. Alors, à propos justement de cet usage métaphorique, eh bien, au fond, parler des frontières, eh bien, c'est parler, si vous voulez, donc des limites des capacités. Vous voyez, si au fond, je dispose d'un potentiel, de compétences, de capacités, et les frontières, eh bien, ça va signifier les limites donc de ces capacités. J'ai des capacités jusque-là, quelles que soient ces capacités, qu'elles soient physiques, qu'elles soient mentales, etc. Je peux réussir certains exercices, je peux réussir jusqu'à un certain niveau, mais je ne le peux pas au-delà. Et parler des frontières, eh bien, c'est parler de limites dont on s'aperçoit bien qu'elles sont différentes pour chacun, et dans chacun des domaines, c'est-à-dire qu'en fond les uns des autres, donc on est sur des choses très simples, eh bien, on peut avoir en quelque sorte des frontières plus ouvertes, plus larges, dans certains domaines que d'autres, et puis vice-versa. Donc on n'a pas tous, je dirais, les mêmes compétences, le même potentiel dans différents domaines, et ce que l'on réussit bien, eh bien, l'autre ne le réussit pas forcément, mais il réussit mieux que moi certaines choses que je ne réussis moins bien que lui, etc. Donc on voit bien tout de suite qu'il y a une variation, une variabilité justement de ces frontières. Alors je vais évoquer sur cette question donc des frontières et du déplacement des frontières, je vais vous proposer trois pistes de réflexion. La première, c'est le jeu des frontières, c'est-à-dire comment fonctionnent justement ces frontières. Ensuite, je parlerai de la variabilité des frontières. Et ensuite, je terminerai sur la relation à autrui, le rapport à autrui, en particulier dans le jeu social par rapport à cette notion de frontière. Alors, tout d'abord, donc le jeu des frontières, le fonctionnement des frontières, on pourrait dire le mécanisme des frontières. Donc, on le disait, au fond, donc métaphoriquement, cela concerne les capacités physiques et mentales, donc de chacun des individus, et cela, je dirais, on est directement en lien avec ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le handicap, puisque j'ai défini le handicap comme une déficience donc dans le domaine physique ou mental. Voilà. Donc là, en quelque sorte, on voit bien que la frontière est tout de suite intégrée justement à cette approche du handicap. En tous les cas, concernant justement ces frontières, ces limites dans le domaine des capacités physiques ou mentales, eh bien, ce que l'on peut poser, c'est que l'humanité commune est dans la moyenne. C'est-à-dire que, au fond, et on pourrait parler là de courbe de Gauss, il y a dans l'humanité commune, dans une population donnée, des compétences qui, on l'a bien dit, sont variables, mais qui représentent une moyenne tout de même. Et on s'aperçoit bien que par rapport à cette moyenne, eh bien, par contre, il y a des extrêmes et qui sont relativement exceptionnels, ces extrêmes. Alors, c'est-à-dire que quand on regarde cette question des frontières, à nouveau, on ne peut pas dire, si vous voulez, qu'on soit dans une logique arithmétique consistant à dire la population se répartit, si vous voulez, de... Si on classait par exemple de 1 à 100, que toute la population serait partie de 1 à 100. Les professeurs, comme vous le savez, pour prendre là, je dirais, une image au moins que je maîtrise, un domaine que je maîtrise, notent leurs élèves. 80% de la, je dirais, des cohortes, comme on dit, d'élèves ou des classes, peu importe, sont notées, si vous voulez, sur 20% de l'échelle de notation. C'est-à-dire, donc grosso modo, entre 8 et 11, 8 et 12, enfin voilà, quoi, hein, on tourne, si vous voulez, sur un... tout simplement parce que, et c'est bien, et au fond, c'est rassurant, ça veut dire que la majorité des élèves... Alors, on pourrait très très bien, et ça serait sans doute mieux en France, là, je ne loue absolument pas le système de notation à la française, qui, donc je le pense, à bien des égards, n'est pas satisfaisant. Donc là, c'est un constat. Mais vous voyez très très bien qu'après, cette population moyenne, on pourrait très bien la déplacer. C'est-à-dire qu'on pourrait déplacer cette population moyenne et la noter aux alentours de 15, par exemple, et d'avoir, si vous voulez, donc 20% de la population entre 14 et 17 ou quelque chose comme ça. Vous voyez ? Voilà. Alors, donc... Là, si vous voulez, cette notion de frontière, on s'en aperçoit vite, est moins une question arithmétique, quantitative que qualitative. Parce qu'à nouveau, on a, si vous voulez, donc le gros de la population qui est dans des limites relativement étroites, dans une moyenne, c'est-à-dire que dans une population donnée, tout le monde arrive à peu près à faire, je dirais, ce qu'il faut dans le domaine intellectuel et physique pour mener, je dirais, la vie courante. Et par contre, eh bien, par rapport à cela, dans une population moyenne, on a des exceptions. Et ce qui est intéressant, c'est que les exceptions, eh bien, il n'y en a pas qu'une. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les personnes qui n'y arrivent pas ou qui arrivent franchement moins bien au point qu'on va dire qu'il y a une déficience parce qu'il faut les aider ou il faut adapter, je dirais, l'environnement ou que sais-je. C'est qu'on a aussi les gens qui arrivent beaucoup mieux que la moyenne. Et ces gens qui arrivent beaucoup mieux que la moyenne, ce sont aussi des exceptions. C'est-à-dire qu'il y a une différence qualitative par rapport à la moyenne de population, hein, par rapport à une moyenne dans une cohorte. D'où la fameuse courbe de Gauss, si vous voulez, de ce point de vue-là. Hein. C'est-à-dire qu'on a vraiment, si vous voulez, une majorité de population qui est regroupée. Et puis, on a deux extrêmes. Un extrême dans le domaine de la déficience et un extrême dans le domaine de l'exploit. On a d'un côté celui qu'on va appeler le handicapé et de l'autre côté celui qu'on va appeler le génie. D'ailleurs, dès que on s'intéresse un peu à l'art, etc., eh bien, on s'aperçoit que les deux sont relativement proches. D'accord, hein ? C'est-à-dire que dans le monde des artistes, je dirais, les grands génies ne sont quand même pas très, très éloignés donc, de la folie, d'une forme de handicap, en tous les cas social, s'il n'est pas... Enfin bon, cette forme de déséquilibre, etc. Van Gogh n'est pas une exception. Hein, si on passe en revue, je dirais, les grands artistes, les grands génies, que ce soit dans le domaine artistique ou dans le domaine de la recherche, etc., on a des phénomènes de capacités exceptionnelles sont pas éloignées aussi de problèmes de marginalité par rapport à la moyenne, par rapport au mode de fonctionnement, etc. Mais ne serait-ce que parce qu'au fond, ces génies, qu'ils soient dans le domaine des sciences, dans le domaine de la pensée, dans le domaine de l'art, etc., pour être des génies, en fait, il faut qu'ils rompent avec la moyenne. Il faut qu'il casse, en quelque sorte, ce qui est admis jusque-là, que ce soit, Bachelard disait, la science et la philosophie du non, c'est-à-dire que la science, pour progresser, elle casse les hypothèses antérieures. Et donc, casser les hypothèses antérieures, c'est rompre avec la moyenne, c'est rompre avec la vie commune, c'est rompre avec l'accord des esprits, etc. Voilà. Et donc, cette image, l'image, en quelque sorte, bon, du poète maudit, de l'artiste marginal, etc., est certes née dans le monde romantique, mais ça n'est pas qu'une image romantique. Il y a quelque chose sur le plan, je dirais, social, dans la répartition, si vous voulez, dans une cohorte sociale qui est objectif, qui est réel. Hein, voilà. Donc voilà, si vous voulez, à peu près ce, à propos du jeu des frontières, ce que l'on peut dire, et c'est que là, au fond, même si effectivement, quand on le regarde au niveau de chacun d'entre nous, eh bien, on verrait vite, je dirais, une différenciation des frontières, vous voyez, et on se noterait, entre guillemets, sur des exercices de ceci ou de cela, que sais-je, etc., assez facilement différents. Mais si on prend un peu de recul, eh bien, on s'aperçoit bien que, au fond, la question des frontières, elle est fondamentalement qualitative et pas quantitative. Hein, c'est pas, je dirais, c'est foncièrement par rapport à l'humanité, la question essentielle est d'ordre qualitative et non pas quantitative. Alors, à ce propos, se pose la question des normes, vous voyez, en particulier le normal et le pathologique. Nous en parlions dans quelques instants avant de venir ici. Je ne vais pas développer cela maintenant, mais on pourra éventuellement y revenir dans l'échange de tout à l'heure. Il y a en philosophie et dans le domaine de l'épistémologie des travaux assez récents, puisqu'ils datent, je dirais, de 20-30 ans, qui ont beaucoup apporté dans ce domaine-là, en particulier un médecin philosophe, donc Georges Canguilhem, qui était donc un médecin agrégé de philosophie, donc qui a rédigé une thèse qui portait le titre de Le normal et le pathologique, qui a eu un rôle extrêmement important dans la réflexion sur ces questions-là. C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce que ça signifie de parler de normalité ? Et par rapport à la normalité, qu'est-ce que ça signifie de parler de pathologie ? Et en fait, il a renversé la position. C'est-à-dire que plutôt que de partir du normal, alors que logiquement, c'est ce qui paraît évident, c'est-à-dire qu'on a une norme, et à partir de cette norme, eh bien, on va dire, eh bien, il y a des phénomènes pathologiques, et de ce point de vue-là, eh bien, le handicap est un phénomène pathologique parce qu'il n'est pas adéquat à la norme. Il a complètement renversé la position et il a dit, au fond, la pathologie ne se définit pas par rapport au normal. Il se définit par rapport à la santé, donc qu'est-ce que signifie que la santé, bon, etc. Et donc, de ce point de vue-là, si vous voulez, ça lui a permis, en quelque sorte, d'interroger la norme. Qu'est-ce qu'il y a derrière la norme ? Parce que la norme, si vous voulez, ce qui est normal, c'est une évidence, c'est un préjugé existant dans un tissu social, dans un ensemble social, ça fait l'accord des esprits. Au fond, ça concerne la majorité, donc on est tous d'accord pour considérer qu'on est normaux et puis qu'il y a des gens anormaux. Hein, de ce point de vue-là, en un certain sens, le handicapé comme le génie sont des gens anormaux, voilà, en un certain sens, tous les deux. Voilà. Mais d'où vient la norme ? Qu'est-ce qui fonde la norme ? Quelle est l'origine de la norme, etc. Et alors, en fait, ça a ouvert un champ très, très important, qui est un champ, je dirais, aussi donc, d'analyse critique, puisque Michel Foucault, dont vous avez entendu parler, qui est une grande figure de la philosophie française contemporaine, avec des ouvrages comme « L'histoire de la philosophie à l'âge classique »,« Surveiller, punir », etc., s'est appuyé, il faisait partie du jury de thèse de Georges Canguilhem, et il s'est appuyé sur les travaux de Georges Canguilhem pour radicaliser la réflexion sur la norme, en disant, au fond, derrière une norme, il y a toujours un pouvoir. Et il a interrogé la norme, en disant, quand tu dis que ça, c'est normal, quand tu dis, voilà, la norme, c'est ça, et donc, par rapport à ça, il y a des fous, il y a des handicapés, il y a des gens anormaux, il y a, bon, etc., etc., pourquoi tu dis cela ? Quel est ton intérêt de dire cela ? Et il est allé visiter l'histoire, je dirais, l'histoire de la folie, et il a montré historiquement, justement, que derrière l'affirmation de la norme, derrière la définition de la norme, eh bien, il y avait justement une logique de pouvoir. C'est-à-dire que celui qui maîtrise la norme, celui qui édicte la norme, celui qui manipule la norme, eh bien, impose un pouvoir à travers, justement, donc, la formulation de la norme. Donc là, il y a des choses qui, évidemment, sont extrêmement intéressantes. Hein. C'est d'autant plus intéressant qu'aujourd'hui, les frontières bougent. Donc tout à l'heure, on le verra au niveau de la législation. Et donc, justement, il a fallu, de ce point de vue-là, faire bouger les mentalités, faire bouger, en quelque sorte, la normalité telle qu'on la concevait, etc. Voilà. Deuxième étape, deuxième piste dans ma réflexion sur la question des frontières, la relativité. La relativité des frontières. Au fond, en disant, tout individu a des frontières par rapport à ses capacités, et puis une population moyenne a des frontières donc, qui sont celles de capacités courantes, moyennes, etc. On oublie quand même que les frontières eh bien, sont très évolutives pour tout organisme vivant et a fortiori pour l'homme. L'homme, dans son existence, eh bien, d'enfant qu'il est, devient adulte puis vieillard, et les frontières, de ce point de vue-là, de ses propres compétences, sont extrêmement évolutives dans la vie. Et donc dire, au fond, eh bien, mes frontières sont celles-ci, c'est oublier que je suis parti avec des frontières très limitées en termes de compétences quand j'étais complètement assisté, que, en quelque sorte, ces frontières, je les ai repoussées progressivement, en grandissant par le développement de mes capacités, etc. Et puis que, ensuite, eh bien, la vieillesse, enfin, bon, etc., je passe très vite là-dessus, mais parce que je pense que c'est tout à fait évident, c'est très simple à comprendre, eh bien, au contraire, réduit, restreint à nouveau les frontières. Donc, en fait, il y a, pour chaque individu, il y a une mouvance de ces frontières. Et donc, il est, je dirais, on voit bien cette relativité ici. Par ailleurs, et on peut parler aussi de l'adaptation, si vous voulez, donc de l'organisme vivant et a fortiori de l'homme. Alors ça, je suis persuadé que Thierry David pourra mieux en parler que moi. Je ne suis pas du tout compétent en la matière, mais on sait bien à quel point, nous sommes capables de nous adapter en cas de déficience. C'est le cas, par exemple, de l'amputé ou du handicapé, qui va faire la même chose autrement. C'est-à-dire qu'a priori, on pourrait dire ses frontières sont celles-ci. Si, par exemple, il n'a plus de bras, eh bien, il y a des tas de choses qu'il ne peut pas faire, ou s'il manque un bras, etc. Or, en fait, il y a une adaptation de l'organisme et, de l'individu qui va faire la même chose, mais autrement. Donc là, on s'aperçoit bien aussi de cette variabilité, de cette relativité donc des frontières. Hein. Voilà. Autre remarque sur la relativité, c'est le fait que la frontière joue aussi un rôle de provocation. C'est-à-dire que, au fond, quand je dis mes frontières sont celles-ci, quand je dis à quelqu'un tes frontières, eh bien, c'est cela. Pour l'être humain, les frontières jouent davantage, me semble-t-il, comme provocation que comme limite. L'enfant, eh bien, se met à marcher, se met à parler, bon, etc., etc., se met, je dirais, à gambader, se met à grimper, à escalader les murs, on appelle ça des bêtises, mais précisément, il dépasse toute une série de frontières qu'on tâche de mettre sur sa route, etc., sous forme, par exemple, d'obstacles, de limites, etc., et on voit bien à quel point, justement, les frontières donc, qui sont mises, je dirais, sur notre route, et quel que soit l'âge, d'ailleurs, y compris, par exemple, chez les personnes très, très âgées, enfin, chez les personnes âgées, etc., tout ce qu'on tâche de mettre comme frontière pour protéger, par exemple, les gens, sont autant de provocations, donc, à la transgression. Hein, on est, je dirais, par notre propre, si vous voulez, par l'élan vital qui est le nôtre, notre dynamique vitale, notre désir, en fait, nous sommes, vis-à-vis des frontières, beaucoup plus en situation de transgression qu'en situation de respect. D'ailleurs, si au fond on ne faisait que respecter des frontières, eh bien, je dirais, on n'avancerait pas dans la vie. La vie sociale n'évoluerait pas, il n'y aurait pas de progrès dans l'humanité, l'humanité ne bougerait pas, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Hein, au fond, je crois que de ce point de vue-là, d'ailleurs, la vie humaine, l'existence humaine est beaucoup, beaucoup. Si vous voulez, la transgression de la frontière permet bien mieux de comprendre ce qu'est l'homme que le respect des frontières. Voilà. Et c'est évident. Hein, et ceux qui font avancer l'humanité, c'est ceux qui transgressent les frontières. C'est pas ceux qui restent coincés, si vous voulez, qui restent dans une petite vie, on pourrait dire, vous voyez, dans une vie limitée par les frontières de leurs propres compétences. Hein. À nouveau, on en parlait tout à l'heure, les génies, quel que soit leur domaine, les grands artistes, les grands chercheurs, les grands intellectuels, etc., précisément, c'est ceux qui transgressent les frontières, quoi. Hein. Sinon, ils resteraient, si vous voulez, donc dans la moyenne, et précisément, je dirais, ils n'apporteraient pas ce dont ils peuvent faire cadeau à l'humanité. Hein. Voilà. C'est donc l'ordre du désir. Voyez, ce qui nous anime, c'est moins ce que je peux faire, car faire uniquement ce que je peux faire n'intéresse pas grand monde. Ouais, ce qui m'intéresse, c'est ce que je ne peux pas faire encore, quoi. Hein. Si, quand on me dit, bah, écoute, tu sais faire ça, tu vas le faire, voilà, c'est bien, mais précisément, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je ne peux pas faire encore, ce que je ne sais pas faire, etc. C'est les défis. Sur le plan du management, c'est assez intéressant parce que ça pose des problèmes, cette dynamique. C'est ce qu'on appelle donc, le principe de Peter. C'est-à-dire que, vous savez, on fait. Donc, l'entreprise, elle compte là-dessus, évidemment, parce que, évidemment. C'est la plus-value qui est apportée à l'entreprise. La plus-value qui est apportée à l'entreprise, c'est que les gens progressent dans l'entreprise et en quelque sorte apportent davantage de leurs compétences, etc. Soit dans cette dynamique de développement des compétences, d'apport de compétences, etc. Et simplement, il y a quand même une limite. Les gens ont quand même une limite. Parce que sinon, on serait tous des génies s'il n'y avait pas de limite. Bon, donc on sait bien que malgré cet effort de développement de nous-mêmes, etc., il y a quand même une limite. Et dans le domaine du management, on appelle ça le principe de Peter. Parce qu'on fait grimper les gens, si vous voulez, dans les hiérarchies. Voilà. Et alors on les pousse, etc. Et puis il y a un moment donné, c'est une fois de trop. C'est-à-dire qu'on les met à un poste qui est précisément le poste pour lequel, eh bien, ils n'ont plus les compétences requises. C'est-à-dire qu'on a poussé une fois de trop. Et alors, donc. On a appelé principe de Peter le fait, effectivement, le risque et en même temps le défaut des hiérarchies de pousser les gens à leur extrême de compétences, quitte à les installer à un niveau où ils ne sont plus compétents. Et où, à ce moment-là, eh bien, évidemment, ça engendre des difficultés, des problèmes, etc. Mais c'est tout à fait intéressant parce que au niveau du management, ça fonctionne vraiment, si vous voulez, sur ce principe donc, de Peter. Voilà. Alors, à propos de la relativité des frontières, je reviens quand même un petit peu au handicap pour l'illustrer. Je vais parler là, donc pour terminer ce deuxième point, d'un film que j'ai vu récemment, et je suis sans doute le seul à l'avoir vu, mais par contre, je vous le conseille très vivement. C'est un film québécois qui s'appelle Gabriel. Alors, je crois que je l'ai vu en avant-première. Est-ce que certains l'ont vu, ce film ? Est-ce que vous en avez entendu parler ? Bon, c'est un très beau film donc, que je vous conseille vivement, qui a été tourné par Louis Archambault. Donc, c'est un film qui est sorti au Québec en septembre 2013. Donc, c'est relativement récent et je l'ai vu en avant-première au mois d'octobre, fin octobre. Voilà. Et c'est un film qui met en scène donc une jeune femme, modérément handicapée, mais néanmoins vivant en institution, dans un appartement géré avec plusieurs handicapés, géré par un moniteur, bon, etc. Donc c'est quelqu'un qui travaille. Donc là, les jeunes travaillent dans des ateliers protégés, bon, etc. Et alors, dans ce film, eh bien, cette jeune fille tombe amoureuse donc d'un autre, je dirais, d'un garçon. Et toute la problématique de ce film, eh bien, c'est la constitution de ce couple. Si vous voulez, par rapport, je dirais, évidemment, au couple de la vie courante, etc., et qu'il voit à l'extérieur et tout. Et donc, les difficultés que ça engendre, en particulier vis-à-vis des adultes, en quelque sorte, et donc responsables de ces jeunes, et plus particulièrement, d'ailleurs, des parents, si vous voulez. Alors, moins de la jeune fille que du garçon. Donc, il y a un phénomène de... La mère du garçon, donc de ce garçon handicapé, ne veut absolument pas, en quelque sorte, que ça arrive. Ah, absolument pas, parce que son fils, je dirais, étant en quelque sorte handicapé, eh bien, c'est pour elle, c'est pas concevable. Donc, il a une vie de couple avec une jeune fille, etc. Voilà. Donc ça. Alors, c'est, je dirais, bon voilà, le film. Je vais pas vous raconter la fin. On peut en même temps imaginer, ça se termine bien, c'est un beau film. Voilà, c'est un film qui est tourné d'ailleurs avec Charlebois. Donc c'est magnifique parce qu'il y a des chorales avec Charlebois et tout. Donc en plus, c'est un film qui est très beau sur le plan musical. Voilà. Mais c'est très intéressant parce que vous voyez, on parle des frontières, là, ce jeune couple de handicapés, eh bien, ils veulent faire péter les frontières, quoi. Ah, parce qu'effectivement, ils éprouvent de l'affection, un attachement qui grandit progressivement, etc. Et ils ne comprennent absolument pas pourquoi, je dirais, on leur met des frontières, quoi. Voilà. Pourquoi ? Et donc, ils veulent vivre comme, je dirais, comme les autres couples, etc. Voilà. Alors, on voit bien, ce fonctionnement des frontières, la façon dont on leur met, certaines personnes veulent leur imposer des frontières parce que donc ils sont handicapés, et la façon dont eux refusent ces frontières. Voilà. Donc, c'est un jeu très fort, tendu, à certains moments assez émouvant, enfin, etc. Voilà. Donc, Alors, troisième piste maintenant, et je termine par là, que j'ai appelé les frontières dans la relation autrui, les frontières dans le jeu social, etc. Au fond, ce que je veux évoquer là, c'est le fait, et c'est un lien direct avec ce que je viens d'indiquer à propos de ce film, c'est que nous nous rapportons aux autres en fonction des frontières, en fonction de frontières. Ça, c'est une espèce de donnée de base anthropologique. Et que dans toute vie sociale, eh bien, la frontière est une espèce de donnée de base, si vous voulez. Alors, on peut dire, comment ça se fait, c'est assez horrible, etc. Par exemple, il y a des sociologues qui ont étudié ça dans des groupes d'enfants, en disant, le problème, c'est que dans toutes les sociétés, il y a des frontières. Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? C'est qu'il y a des groupes humains qui sont déterminés, qui sont séparés, qui sont distingués des classes, des castes, des ordres, etc. Toutes les sociétés humaines fonctionnent de cette manière-là depuis le début de l'humanité, hein, avec des frontières sociales qui séparent des groupes d'individus les uns des autres, etc. Et donc, il y a des sociologues, par exemple, des psychosociologues qui ont dit, comme c'est les groupes humains, ça doit être culturel, donc il faut voir comment ça se passe au niveau des enfants. Donc ils ont réuni des groupes d'enfants, et en fait ils se sont aperçus que dès qu'on laisse des enfants quelques minutes tout seuls, etc., les enfants gèrent immédiatement leur relation en termes de frontières, quoi. C'est-à-dire qu'ils en excluent certains, ils se regroupent, ils créent des sous-groupes, etc. Voilà, ça va très très vite, etc. Voilà. Et donc c'est le jeu des frontières est un mécanisme élémentaire de ce point de vue-là de toute société humaine. Vous avez un très grand sociologue français, Louis Dumont, qui a rédigé en particulier l'ouvrage Homo Hierarchicus, qui est un ouvrage de référence de la sociologie, donc qui étudie la société de caste indienne, et donc qui part de tout ce qu'il étudie en Inde en disant c'est ce qui est normal de toute société humaine. Et donc, par rapport à ça, il réfléchit ensuite, il écrit un autre ouvrage qui s'appelle « Homo Equalus ». Il réfléchit sur la société occidentale et il dit « Les sociétés égalitaires qui veulent effacer les frontières entre les individus, c'est les sociétés totalement anormales. Enfin, » sous-entendu, c'est les sociétés, c'est l'exception dans l'histoire de l'humanité. Ça a été d'ailleurs, c'est relativement récent chez nous, ça a été inventé au XVIIIe siècle par la modernité politique, où on a fait sauter justement le système d'ordre, si vous voulez, les différences statutaires entre les individus, et cette égalité en droit, et que l'on tend à faire rentrer en fait dans les mœurs, etc. Donc en faisant sauter justement les frontières entre différentes catégories d'individus, eh bien c'est une exception dans l'histoire de l'humanité. Voilà. Donc nous avons tendance à nous rapporter aux autres en fonction donc de frontières. Et donc, le rapport aux personnes qui ont une déficience dans certains domaines, fonctionne de cette manière-là. C'est-à-dire fonctionne selon cette logique, si vous voulez, générale des frontières. C'est-à-dire que, y a une frontière entre les gens normaux, en quelque sorte, et puis ces gens qui ne peuvent pas faire ceci. Voilà. Et donc, il y a une frontière qui est établie. Et cette frontière, c'est le jeu normal de toute société. Voilà. Alors, au fond, cela, donc, non seulement, je dirais, le fait, si vous voulez, de refuser cette dimension-là, non seulement elle est exceptionnelle dans l'humanité, mais par rapport au handicap, au fond, on ne l'a compris que récemment. Et donc, l'évolution des législations et tout ce qui se fait aujourd'hui, donc nous en parlions aussi dans notre rapide rencontre avant la rencontre avec Thierry David, qui disait, depuis 20 ans, il y a énormément, énormément de choses qui ont changé. Donc, il va en parler maintenant. Je lui laisse la parole dans quelques instants de ce point de vue-là. Mais donc, le fait, si vous voulez, donc de lever les frontières Et donc, par exemple, de faire rentrer des enfants ayant une certaine déficience, par exemple dans le domaine mental, de capacité intellectuelle, etc., dans les milieux scolaires courants habituels, hein, eh bien, c'est effectivement très, très récent. On voit bien que, voilà, c'est très récent. Et on voit bien que non seulement il faut pour cela changer la réglementation, la législation, l'organisation, etc., mais qu'il faut faire bouger les mentalités. Et on pourra peut-être, je laisse ça pour tout à l'heure, je termine, mais je parlais tout à l'heure des classes Ulis là, qu'on a créées dans notre établissement. Dernièrement, il y a un petit film qui a été fait sur ces classes Ulis, et on voit à quel point, malgré tous les efforts qui sont faits, etc., eh bien, les mentalités restent lourdes, y compris chez les enfants. C'est-à-dire que ces enfants donc, qui sont donc dans ces classes Ulis, etc., eh bien, ont beaucoup de mal à être intégrés par les autres enfants, qui fonctionnent, comme tout humain dans l'humanité, en produisant de la frontière, quoi. Parce que c'est notre mécanisme. C'est un mécanisme, si vous voulez, de protection. C'est-à-dire que la frontière, pourquoi ? La frontière, en fait, c'est un mécanisme de protection et d'identification. Je me protège derrière ma frontière et ça me permet d'identifier l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, en fait, c'est très sécurisant. Et c'est la raison pour laquelle ça fonctionne dans toute société et dans l'ensemble de l'humanité. Hein, ça fonctionne de cette manière-là. Voilà. Voilà. Et donc, de ce point de vue-là, et je termine par là, au fond, et c'est ce que l'on voit dans ce film Gabriel, donc on pourra y revenir, enfin, moi, ce que j'ai compris dans ce film Gabriel en particulier, c'est que finalement, en grande partie, le problème du handicap ou les problèmes du handicapé, eh bien, se trouvent, en fait, du côté du non-handicapé. Du côté du non-handicapé, qui produit justement de la frontière. Parce que justement, mécaniquement, la vie sociale, mécaniquement, dans nos relations, nous produisons de la frontière. Quoi. Voilà. Et c'est ce qui est très intéressant dans ce film, et c'est pour cette raison-là que je vous encourage à le voir, c'est au fond, c'est un film qui arrive à montrer à quel point, au fond, c'est l'environnement qui crée les problèmes davantage que, je dirais, le handicap lui-même. Quoi. Voilà. Bien, je reste là, il est temps. Et je vous laisse la parole.
Merci. Donc, je vais d'abord remercier Pascal, qui a eu la gentillesse et qui m'a fait l'honneur de m'inviter dans le cycle de réflexion sur la dépendance. Je crois qu'il a déjà commencé depuis plusieurs semaines. Donc, j'espère être à la hauteur de son attente. Hein. Je remercie aussi les philosophes et les acteurs du Collège supérieur de m'inviter. Je vois que la barre est haute, les réflexions sont profonde, les citations et les références à des ethnologues, des philosophes sont largement dites. Donc moi, je vais être beaucoup plus en fait terre à terre dans mon propos et je vais parler de handicap et dépendance. Et j'ai laissé effectivement le côté déplacement des frontières qui était marqué sur l'annonce de cette conférence parce que le déplacement des frontières, ça ne m'a pas évoqué grand-chose. J'aurais préféré parler de dépassement des frontières pour les handicapés. Et je vais essayer de vous parler de cette dépendance et de ce handicap. Donc, je vais me présenter un petit peu mieux pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis pédiatre. J'ai des exercices multiples. J'ai une activité libérale, comme le docteur Maisonneuve présent ici. J'ai fait une activité aussi de néonatologie. Et je suis directeur médical d'un centre de rééducation, ce qu'on appelle un soin de suite rééducation pédiatrique, qui s'appelle La Maisonnée à Francheville, où on accueille des enfants qui sont lourdement malades. La plupart sont des ventilations artificielles. Et en plus d'être lourdement malades, ils sont très souvent handicapés, voire polyhandicapés. Mais je suis également père d'enfants handicapés. Et à ce titre-là, j'ai vécu le passage de l'enfance à l'âge adulte, et donc le passage de la dépendance à l'autonomie. Hein, parce que ce passage dépendance à l'autonomie, il est normal chez l'enfant, mais il est encore plus difficile chez l'enfant handicapé. Il est en tout cas différent. Donc, mon propos va s'articuler sur deux plans. D'abord, remettre au centre de la question le handicap, et puis voir un petit peu les façons de passer de la dépendance à l'autonomie. En ce qui concerne le handicap, vous connaissez probablement l'historique du mot handicap qui était relaté par Marc Gauchran. C'est en fait la signification étymologique du handicap. Ce mot vient de l'anglais hand in cap, c'est-à-dire la main dans le chapeau. et cela visait, dans le cadre d'un troc de biens entre deux personnes, à rétablir une certaine égalité de valeur entre ce qui était donné et ce qui était reçu. Celui qui recevait le bien d'une plus grande valeur mettait la main au chapeau pour égaliser, pour rétablir l'équité vis-à-vis de celui qui avait le bien de moindre valeur. Plus tard, le mot handicap et tout ça dans le domaine, chez les Anglais, est appliqué au domaine sportif, dans les courses hippiques. Et en fait, c'est une pénalisation qui est donnée aux chevaux, les chevaux les plus compétents en fait, pour égaliser les chances de victoire de l'ensemble des participants. Et ce n'est que très tardivement que le mot handicap sera employé en médecine. D'ailleurs, j'ai consulté un Larousse médical de 1912 de mon grand-père et il n'y a pas le mot handicap, ce qui est étonnant pour un Larousse médical. À cette époque-là, les termes qui désignent le handicap physique sont plutôt infirmité ou cagot pour le handicap physique et les termes qui désignent le handicap mental sont crétin, débile, idiot ou fou. Et en médecine, on regroupe d'ailleurs ces termes, tous ces termes sous le nom générique d'oligophrénie à l'époque. Le glissement sémantique du mot handicap de l'animal vers l'homme, de la langue anglaise vers le français, est un peu confus. Mais chaque fois, on peut noter la notion de restriction. Historiquement, le handicap est un désavantage qui est volontairement imposé au plus fort pour égaliser les chances. Donc voilà un peu l'historique du mot handicap. La notion moderne de handicap, elle sera développée en 1980 par un Britannique qui s'appelle Philip Wood et qui définit le handicap comme un désavantage, c'est vraiment le terme désavantage qu'il emploie, dont est victime un individu pour accomplir un rôle social normal du fait d'une déficience, qu'elle soit temporaire ou définitive, ou de son incapacité à accomplir une activité. Donc on a désavantage, déficience, incapacité. Ça, c'est les trois termes qu'on retrouve toujours dans la définition du handicap. Ces travaux de M. Wood ont permis l'établissement d'une classification internationale donc qui se base sur trois critères. D'une part, la déficience psychologique, physiologique ou anatomique. D'autre part, l'incapacité, qu'elle soit partielle ou totale. Et d'autre part, la conséquence de cela, c'est-à-dire le désavantage pour l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle. Cette classification, elle a été modifiée en 2001. Elle est devenue, alors ça s'appelle la CIH au départ, la classification internationale du handicap. Elle est devenue la classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé. Et cette nouvelle classification prend davantage en compte l'aspect social et les facteurs environnementaux. Alors, il y a quatre catégories, je voulais rapidement vous les lire, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que c'est compliqué. Fonction organique, donc ça c'est le domaine de fonctionnement corporel, les structures anatomiques qui situent l'organisation physique en jeu, l'activité et la participation qui identifient les fonctionnements concernés, et enfin les facteurs environnementaux. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le handicap se définit comme la rencontre d'une déficience avec une situation de la vie quotidienne. Et ça ouvre le champ du handicap à beaucoup, beaucoup de gens. Et en fait, dès qu'on a cette définition, il est préférable plutôt que de parler de handicap, de parler de situation du handicap. Tout ce que je vous ai dit, c'est pour amener à la notion de situation du handicap. Alors c'est intéressant aussi de se pencher sur le côté législatif. Bon, il y a deux lois en France qui parlent du handicap. Et la première loi, c'est la loi de 1975 qui unifie le cadre de la prise en charge des handicapés. Donc là, on parle en 1975 d'un cadre légal de prise en charge. Donc ça, on parle de la prévention et le dépistage des handicaps. On parle de l'obligation éducative pour les enfants et les adolescents handicapés. Et on parle de l'accès des personnes handicapées aux institutions ouvertes à l'ensemble de la population. Et on parle aussi du maintien le plus possible dans les cadres normaux. La loi handicap 2005, elle porte sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Et c'est important parce que l'égalité des droits et des chances, ça revient à la notion historique du mot handicap. Et on a envie de dire, qu'est-ce qu'il y a dans le chapeau de l'État pour corriger ce handicap ? Alors je vous lis quand même le texte, l'article 114 qui définit le handicap, parce que c'est relativement intéressant, parce que c'est quand même la définition actuelle du handicap. Donc constitue un handicap au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive, d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Donc c'est cette loi de 2005 qui a défini le droit de compensation et qui conforte la notion de situation de handicap. En gros, la situation de handicap, elle est la résultante de l'interaction entre une déficience ou trouble de la santé, qui est lui-même cause d'incapacité et de limitation d'activité, avec un environnement, au sens large, qui est composé de facteurs personnels, alors les habitudes de vie, l'éducation, la culture, la profession des personnes handicapées, et aussi de facteurs contextuels, le climat, là où habitent les gens, l'environnement humain, la famille, etc. C'est en fait la définition de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, et là apparaît le mot autonomie. Et ça, ça nous intéresse beaucoup plus que dépendance. Donc autonomie, alors là je vais faire un peu le philosophe. Autonomie, ça veut dire la loi qu'on se donne à soi-même, c'est ça ? Voilà. Donc c'est intéressant d'avoir ce on est parti du mot handicap qui est assez qui restreint les choses à autonomie, hein, qui est la loi qu'on se donne à soi-même. Alors, pour résumer l'évolution du sens donné au mot handicap à travers l'histoire du mot et à travers la législation, sur le plan historique et sur le mot, on parle, donc sur le plan humain, je ne parle plus des courses de chevaux et des trocs, hein, au départ, on a le handicap qui est une déficience, une infirmité, une débilité au départ. Hein. Ensuite, ça devient, c'est défini comme un désavantage pour accomplir un rôle social par déficience ou incapacité. Et on arrive à la notion de situation de handicap qui met en jeu des facteurs environnementaux. Et donc, je dis tout de suite, là ça ouvre le champ du handicap. Finalement, on va trouver beaucoup de personnes handicapées, hein, si on compte tous les facteurs environnementaux. D'ailleurs, il y a des théories, là aussi, j'ai lu un petit peu parce que Pascal m'a obligé à lire plein de choses ce week-end. Donc, je me suis beaucoup documenté et effectivement, il y a des théories canadiennes sur... l'ampleur finalement du handicap qui est reconnu dans la société, parce que si on prend en compte les facteurs environnementaux, finalement, tout le monde est le handicapé de quelqu'un d'autre, finalement. Alors, l'évolution aussi sur le plan législatif du handicap, donc on passe effectivement en 1975 d'une loi qui est une loi cadre, en fait, hein, qui est juste, on parle de la prise en charge du handicap, à une loi de 2005 qui parle de l'égalité des droits et des chances. Et là, donc, on revient à la notion initiale d'égalisation des chances. Donc, on voit bien qu'il y a une évolution des esprits et de la prise en charge par la société. Il y a une reconnaissance et une réparation, en tout cas une tentative de réparation. Et au climat de dépendance qui prévalait sur le mot handicap, va se substituer un esprit d'accession à l'autonomie. Et c'est ce qui est vraiment promu actuellement pour le monde des personnes handicapées, c'est l'accession à l'autonomie. Donc on va en parler de cette accession à l'autonomie. Alors je voulais simplement dire que dans le monde, on considère, ça c'est les revues de l'ONU, là il y a un petit bulletin de l'ONU, on considère qu'il y a 650 millions d'individus qui sont porteurs du handicap. Et ça représente environ 10% de la population mondiale, ce qui fait la première minorité d'humains en termes de nombre. Alors de la dépendance à l'autonomie, il faut savoir aussi... Qu'est-ce qu'une dépendance ? Donc, je crois que ça a été beaucoup traité dans les conférences antérieures. Donc, ceux qui ont assisté aux conférences antérieures, ils ont déjà écouté plein de choses. Alors, c'est vrai que la dépendance, c'est en fait une ouverture vers la relation. Et c'est quelque chose qui permet le lien. Quand on est dépendant, on est en lien avec l'autre. Alors, cette dépendance, c'est un état qui est facilitant pour la personne handicapée, hein, parce que le maintien du lien est quand même quelque chose de facilitant pour la personne handicapée. C'est un état facilitant pour la famille, qui peut trouver dans cette dépendance une justification de son contrôle. C'est un état facilitant pour l'institution, pour beaucoup d'institutions, on verra plus tard, parce que c'est plus facile de réduire l'état de la personne handicapée au rôle de malade, ou de personne rééducable, ou à éduquer, hein, que de faire prendre son autonomie. Et puis c'est aussi, souvent, la dépendance, un état facilitant pour la société. Et la société, elle peut en fait choisir soit d'écarter les personnes handicapées, soit de les assister complètement pour les mettre dans une espèce de petit carcan. Donc on en revient en fait le pouvoir dominant, hein, et les handicapés qui revendiquent leur autonomie et leur communautarisme, finalement, ils sont peut-être bien mis sous le main, sous la coupe du pouvoir. La prise de conscience et la reconnaissance du droit à l'autonomie. Donc ça, c'est le chemin que vont faire les personnes handicapées. Et ils ne vont pas le faire tout seuls, ce chemin, puisqu'ils sont accompagnés. Donc c'est pour ça. Enfin, moi, ça, c'est mon côté pédiatrique, bien sûr. Hein. Donc je parle toujours de la personne handicapée, mais de sa famille, de la société et d'institutions. Hein. Toutes ces choses vont graviter autour de la personne handicapée pour lui faire reconnaître ses droits à l'autonomie. Donc la famille, eh ben, elle doit finalement accepter le handicap. Elle doit accepter la différence. Elle doit favoriser le détachement, couper le cordon. Hein, ça, c'est quelque chose de bien médical, on aime bien ça, hein, couper le cordon pour les pédiatres. Même si, naturellement, cette famille, elle va surprotéger cet enfant, enfin, cet être handicapé qui est là, un enfant. Et parce qu'il est fragile, il faut le protéger. Mais il faut aussi que cette famille, elle accepte le risque, parce qu'elle... Hein? Donc c'est vrai que c'est un enjeu important. Et il faut que cette famille, elle sache éviter le tout contrôle. Et puis oublier aussi la notion de culpabilité, hein, qui est toujours un frein à l'autonomie. Hein. Quand les parents se sentent coupables, ils investissent énormément. Donc ils augmentent cette dépendance de leur enfant vis-à-vis du handicap. Donc l'institution aussi, elle doit faire sa part de chemin, hein, vers l'autonomie. Donc l'institution, il faut qu'elle ait une culture de la bientraitance. Il faut qu'il y ait dans cette institution un accompagnement avec beaucoup d'éthique, ce qu'on appelle, en gériatrie, ça s'appelle la philosophie du care. Hein, c'est ça. Donc c'est le fait de ne pas réduire la personne à un état de soin, à une dimension de soin. Il y a autre chose à faire que faire du soin. Et ça, c'est difficile pour les soignants, quelquefois. Il faut permettre à la personne en situation de handicap d'exprimer ses choix et l'accompagner, bien sûr, humainement et techniquement. Mais vous savez que dans les institutions, ce n'est pas si facile que ça. Et que l'institution se heurte à des questions de gestion, de coûts, d'efficacité, d'occupation des lits. Voilà. Donc il y a toute une dimension qui est effectivement une dimension sociétale dans les institutions. La société, elle doit, mais elle a fait déjà beaucoup, elle a fait des lois d'insertion. Et elle a fait des lois pour reconnaître les droits d'individus porteurs de handicap. Et là, vraiment, il y a un progrès, effectivement, qui est très important. Et puis, cet accompagnement vers l'autonomie, ben, bien sûr, c'est l'affaire de la personne handicapée. Donc, l'individu porteur de handicap, il doit accepter, bien sûr, son handicap. Il a souvent le besoin de s'identifier à un groupe. Et ça, c'est très important aussi, la notion... Marc l'avait rappelé, d'identification à un groupe. Et il y a un tas de mouvements, alors qu'ils sont des mouvements qui sont amorcés par les anglo-saxons, hein, ce qu'ils appellent l'empowerment, où il y a en fait des réclamations de ces communautés handicapées qui réclament en fait quatre choses, en gros. Une vie affective et sexuelle, ça c'est très à la mode en ce moment. C'est très compliqué. C'est très compliqué pour des parents, hein, ça tu l'as souligné, je crois que... Ouais, voilà. Mais bon, c'est vraiment quelque chose qui est important à réfléchir. Il y a une dimension de revendication au déplacement. Hein. Alors, il y a une loi, vous savez qu'il y a une loi accessibilité qui, normalement, est à échéance en 2014. Tous les bâtiments publics, tous les bâtiments qui reçoivent du public doivent être aux normes en 2014. Donc, on en est loin en France. Hein. Il y a une revendication sur le logement, une revendication sur la discrimination positive. On en revient aussi à l'identification à un groupe. Hein. Voilà, donc ce qu'on peut dire sur ce que je voulais dire sur le cheminement de la dépendance à l'autonomie, je pense qu'il y a beaucoup de questions qui se posent et que j'espère vous poserez. C'est un éclairage partiel et partisan, hein, de cette chose-là. Et puis pour finir, je voulais dire un peu le rôle du médecin, donc du pédiatre, puisque je suis pédiatre, dans l'accompagnement à l'autonomie, parler d'une expérience professionnelle et quelquefois personnelle. Donc l'accompagnement... C'est un accompagnement à une autonomie particulière qui est un parcours d'adaptation qui mène donc de l'enfance à l'adulte, de la dépendance à l'autonomie. Hein, et donc, je rappelle encore une fois, l'autonomie, c'est la loi que l'on se donne à soi-même. Et c'est, selon Kant, petite réflexion philosophique, la facilité, enfin, permettre l'expression de choix dans un monde qui est rempli de contraintes. Donc, pour être relativement simple, et pour endosser mon rôle de pédiatre, à la naissance et dans les premières années de la vie, bébé, dépendance et handicap sont des notions intriquées. Et en fait, en dehors de la blessure narcissique des parents, du fait d'avoir un enfant différent, il y a assez peu de problèmes à ce moment-là. Il n'y a pas tellement d'angoisse du futur où elle est mise à l'écart par les parents. Hein. Les parents, ils sont dans l'action, hein, ils sont dans la réparation, dans l'action. Le petit est là, il faut y aller. Voilà. Il existe un regard bienveillant de tous les soignants. Nous, à la maisonnée, on a plein de mamans de substitution. Enfin, ça se passe super bien. C'est très gai, les services d'enfants. Hein, avec des handicaps, c'est hyper gai, hyper, c'est agréable à voir. Il y a un regard très bienveillant de la société. Vous avez eu samedi et dimanche le Téléthon. On n'a vu que des enfants en fauteuil. On ne voit pas d'adultes handicapés pratiquement. Hein. Ils n'ont pas le droit à la parole. On n'a que des enfants, c'est joli, ça fait bien, pas de problème. Donc on a l'impression que beauté, innocence de l'enfant, être en devenir, normalité de la dépendance à cet âge. Voilà, on est dans la dépendance, dans le contrôle, tout va bien. Donc bien sûr, on est avant les apprentissages. Il y a peu ou pas de besoin de structures spécialisées. La loi actuelle et les institutions vont dans la direction de l'intégration maximum avant 6 ans. Il n'y a pas d'institut médico-éducatif avant 6 ans. Enfin, rien n'est prévu avant 6 ans, sauf grosse maladie, gros polyhandicap, la maisonnée par exemple, où il y a vraiment des choses importantes. Mais en général, un enfant handicapé reste à la maison et suit un cursus quasi normal. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est pédiatre à ce stade-là ? Bah, il faut effectivement reconnaître le handicap. Il faut essayer de le mesurer. Il faut essayer d'accompagner les parents. Pas forcément projeter dans l'avenir. Ça ne sert pas à grand-chose au début. Et doucement expliquer que l'avenir, bah, il sera différent. Le médecin doit, et ça c'est très important, connaître les moyens de réparation. Alors, c'est les moyens de réparation qui sont multiples, hein, mais ça va dans le sens de l'égalité des chances, hein. Et si vous êtes médecin, vous devez à la famille que vous encadrez, que vous accompagnez, de savoir tout ça. Donc on doit savoir les moyens de réparation médicaux, les moyens de réparation rééducatifs, éducatifs. On doit connaître les dispositifs légaux d'aide, que ce soit des aides de type 100%, de type carte d'invalidité, mais aussi des aides financières. Hein, on doit savoir... adresser un dossier à la MDPH, à la Maison du Handicap, savoir qu'il y a des allocations d'éducation spécialisée. Tout ça, ça paraît bête à dire, hein, parce que c'est assez pragmatique, mais ça renforce l'accompagnement de la personne handicapée et, parce que c'est le sujet, son accession à l'autonomie. Donc, en résumé, ben, chez l'enfant avant 6 ans, dépendance normale, lien familial et social normal, donc pas de soucis particuliers. Mais c'est quand l'enfant grandit que les apprentissages devenant difficiles ou impossibles, ou le handicap physique ne permettant pas une évolution normale, il faut aider donc cet enfant à assumer sa situation de handicap et à débuter son autonomie. Donc, eh bien, le cheminement elle-même, il faut que l'enfant accepte le handicap, ce qui est souvent pas trop difficile. Il faut que la famille accepte le handicap, ce qui est toujours très difficile. Et il faut toujours tout faire pour qu'on cherche le plus d'autonomie possible. Donc l'autonomie en général, c'est toujours une autonomie particulière. Elle est souvent aménagée. Elle est aménagée sur le plan physique, quelquefois sur le plan intellectuel ou psychique. Hein. Et chaque fois, c'est du sur-mesure. Donc là, cet accompagnement, il va se faire avec des soins appropriés. Hein, les soins appropriés, c'est pour pallier aux déficiences. Alors, ces soins appropriés, ils peuvent être jusqu'à mettre un enfant dans un milieu protégé, hein, dans une institution, dans un milieu qui lui convient mieux. Le milieu ordinaire n'est pas toujours le milieu qui convient le mieux à l'enfant handicapé ou à l'adolescent handicapé. Il vaut quelquefois mieux choisir un milieu adapté, hein, qui est plus protecteur. Il faut connaître et il faut mettre en place des aides techniques pour pallier aux incapacités, hein, déficiences, incapacités, hein, toujours les mêmes mots. Donc c'est les aides techniques... vous connaissez les cannes pour marcher, les fauteuils, il y a des tas de choses qu'on peut faire, y compris l'aménagement. Donc après, l'aménagement de l'environnement. Donc l'aménagement de l'environnement, ça peut être l'aménagement du domicile, mais c'est aussi l'aménagement de la société, hein, l'accessibilité. Et puis aussi le cadre législatif dont on a parlé pour la compensation et l'égalité des chances. Les tous ces jeunes donc, ont besoin de s'identifier à un groupe. Et ça, c'est très important. Je pense que dans, dans l'image, dans le déroulement de l'accession à l'autonomie, il y a l'identification à un groupe. Et même les groupes handicapés ont des sous-groupes. Chez les handicapés, vous avez les traumatisés crâniens. Ils se reconnaissent entre les IMC, les infirmes moteurs cérébraux. Ce n'est pas les mêmes groupes que les neuromusculaires. Ce n'est pas les mêmes groupes que les malentendants. Ce n'est pas les mêmes groupes que les malvoyants. Ils ont vraiment leur chapelle propre. Frontières, ils les mettent aussi, les frontières, eux. Donc l'autonomie de la personne en situation de handicap, c'est un chemin personnel qui se construit entre une famille, un environnement, un cadre légal. Et tous sont en mouvement. Alors ça ne tourne pas toujours dans le même sens. Mais en général, il faut essayer que les roues tournent dans le même sens pour arriver à une autonomie. Donc pour terminer, il y a une évolution des esprits et de la vision sociétale de la personne handicapée. Et pour ça, je pense que les terminologies ont changé et qu'il faut adopter de nouvelles terminologies. On vous les a dites, donc je vais vous les répéter. Au lieu de parler de handicap, il vaut mieux parler de situation de handicap. Au lieu de dépendance, eh bien, il faut qu'on parle d'autonomie. Et au lieu de la prise en charge, on parle de l'égalité des chances. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je pense que l'échange va être fructueux.